Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Graphite 94.9 FM et Graphite.net. Donc aujourd'hui, on continue avec les projets présentés par les étudiantes et étudiants du cours Low-Techisation et numérique de l'UTC. Donc je suis Stéphane Crozat et en studio avec Lou, Hugo, Solène et Marion. Bonjour à tous les quatre, ou rebonjour.
Bonjour, rebonjour.
Voilà, et donc là c'est Solène et Marion qui vont nous présenter donc leur travail autour du projet e-agricole. On reste dans la thématique numérique et agriculture. Le projet précédent, AgriBots, nous parlait d'un robot destiné à mener des tâches agricoles, et on va continuer donc avec un drone qui va surtout, je crois, vous allez nous en dire plus, mais savoir à servir à récolter de l'information. Dans la même veine, eh bien, la semaine dernière, on a vu des projets de microscopes low-tech, d'ordinateurs qui durent 50 ans ou de véhicules légers. Et puis, après cette présentation, dans le reste de l'après-midi, on aura donc les projets low-tech push et stop méga-projet. Ce que les étudiants font en IS3, eh bien, c'est donc de la conception. Ils réalisent un cahier des charges pour un projet. Et une des choses qu'ils ont à faire, eh bien, c'est de justifier, organiser leur projet autour d'un certain nombre de concepts, et notamment trois valeurs, la soutenabilité écologique, la responsabilité sociale et la convivialité technique. Donc le projet que l'on va écouter va venir illustrer probablement une ou plusieurs de ces valeurs. Eh bien, voilà pour l'introduction. Est-ce que c'est OK pour toi, Solène, pour démarrer ?
C'est OK.
Eh bien, tu as la main, alors c'est parti.
Donc, bonjour. Nous sommes deux étudiantes, donc Marion et Solène, de l'UV ISO3, encadrées par Stéphane. Et nous avons eu l'opportunité, au cours de ce semestre, de travailler sur la conception d'un drone e-agricole, ayant pour but d'aider les agriculteurs à gérer leur action au sein de leur culture. Donc, ce projet, il a été initié et également suivi par Sébastien Rossi, qui est développeur et qui possède sa propre entreprise, donc qui s'appelle La Boîte à Dev. Il pensait à ce projet depuis plusieurs temps, et la rencontre avec Stéphane lui a permis et lui a donné envie et l'occasion de commencer avec nous. Donc, habitant au milieu des champs, il est directement confronté aux besoins des agriculteurs, et cela lui permet de pouvoir penser son rôle du mieux possible. Donc, grâce à un drone équipé de capteurs, le but est de surveiller les cultures, de détecter les zones à problème, et donc on envoie les données récoltées au logiciel. Ce dernier va pouvoir cibler les zones problématiques et donner différents conseils à l'agriculteur, par exemple en recommandant une irrigation localisée sur des zones en stress hydrique ou en suggérant une couverture végétale pour limiter l'érosion. Donc, il pourra aussi fournir des projections futures des différentes actions possibles, comme par exemple estimer l'évolution du rendement selon les choix culturaux ou simuler l'impact à long terme d'une réduction des intrants sur la biodiversité locale. Donc, finalement, un des enjeux principaux est de réduire les irrigations ou traitements au maximum, étant donné un point de départ qui dépend des pratiques de chacun et chacune.
Donc pour commencer, je souhaiterais vous parler d'un article que nous avons mobilisé lors de notre phase de veille en début de projet. Il s'agit d'un article publié en juin 2024 par le site PrépaDrone, intitulé « L'utilisation des drones dans l'agriculture », que l'on peut retrouver sur le site de PrépaDrone. Cet article propose un panorama très opérationnel des usages actuels des drones dans le monde agricole. Il s'inscrit dans un contexte d'aide pour pratiques agricoles, avec comme objectif principal l'optimisation des ressources et la prise de décision assistée par la donnée. Donc, je vais vous citer l'article que nous avons sélectionné, le passage de l'article. Donc, la surveillance des cultures. Les drones équipés de caméras multispectrales sont utilisés pour surveiller la santé des plantes. Ces caméras capturent des images détaillées qui révèlent des informations cruciales sur le stress hydrique, les carences en nutriments et la présence des maladies. En fournissant des données en temps réel, les drones permettent aux agriculteurs de prendre des décisions rapides et précises pour optimiser les soins apportés aux cultures. La cartographie et analyse des sols. Les drones créent des cartes détaillées des propriétés du sol, aidant les agriculteurs à comprendre la composition et la qualité du sol sur leurs exploitations. Ces cartes sont essentielles pour planifier l'irrigation, la fertilisation et la rotation des cultures. En identifiant les zones de variabilité dans les champs, les drones aident à appliquer des traitements ciblés, ce qui augmente l'efficacité et réduit les coûts. La gestion de l'irrigation. Les drones jouent un rôle crucial dans la gestion de l'irrigation en surveillant les niveaux d'humidité du sol. Ils peuvent détecter les zones où les cultures souffrent de sécheresse et nécessitent un arrosage supplémentaire. Grâce à ces informations, les agriculteurs peuvent optimiser l'utilisation de l'eau, évitant ainsi le gaspillage et améliorant la santé générale des cultures. Donc cet article illustre bien l'argument selon lequel le numérique peut être un levier puissant au service de l'agriculture durable, en fournissant des données utiles, localisées et exploitables rapidement. Mais cette promesse soulève aussi des questions critiques que l'article n'aborde pas directement. Comment ces outils sont-ils accessibles aux petites exploitations qui n'ont ni les moyens ni les compétences pour les utiliser? Qui contrôle les données captées? Et dans quelle mesure l'agriculteur reste maître de ses décisions? Quel est le coût environnemental du matériel numérique utilisé, de la fabrication des capteurs, au traitement des données dans le cloud? Autant de points de vigilance qui nous ont poussés à penser notre projet e-agricole dans une optique de low-techisation. Nous avons donc complété notre veille pour adresser ces questions. Selon une étude publiée en 2024 dans la revue Computer and Electronics in Agriculture, accessible via la plateforme de Sciences Directes, l'usage de drones dans le contexte de l'agriculture de précision a permis d'économiser jusqu'à 45% d'eau grâce à une irrigation ciblée. De leur côté, les chambres d'agriculture des Hauts-de-France rapportent, dans un article publié en 2024 intitulé « Moins d'herbicides, plus d'efficience avec l'imagerie drone », que l'utilisation de drones pour la détection ciblée des adventices permet de réduire de 70% à 90% les apports en herbicides dans les grandes cultures. Selon les données publiées par Certono, fabricant français des serres agricoles, en 2020, l'irrigation des cultures agricoles représentait plus de 3 milliards de mètres cubes d'eau pour 1,8 million d'hectares, soit une consommation moyenne de 1700 mètres cubes par hectare et par an.
Un drone équipé d'un capteur spécifique nommé LOAC et développé par le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, a été utilisé au-dessus du Rhin afin de mesurer les particules fines PM10, PM2.5 présentes dans l'air. Alors ces particules fines, ce sont des particules en suspension qui sont inférieures à 10 ou 2,5 micromètres, un micromètre étant un millionième de mètre. Elles peuvent être de tout genre, issues des fumées et poussières ou issues des méthodes de chauffage et transport comme le charbon, le bois et l'essence. Déployés dans des endroits précis, ces drones aident à déterminer l'impact de telle et telle activité humaine sur la pollution.
Le premier extrait que nous allons écouter porte sur des drones équipés de capteurs, une idée que nous avons pensé à utiliser lors de notre projet. Les drones au service de l'environnement.
C'est l'extrait qu'on vient d'écouter, en effet. Donc on continue à présent avec Solène.
Nous avons fait des histoires, créé des histoires pour montrer leur utilité. Donc on va vous donner un aperçu concret de la façon dont notre drone fonctionnerait sur le terrain. Nous avons choisi de vous lire deux courtes mises en scène que nous appelons donc des histoires. Donc elles ont pour but de plonger dans le quotidien des agriculteurs, de montrer comment notre solution s'intègre dans le travail et surtout de faire ressortir les bénéfices mais aussi les défis qu'ils peuvent rencontrer. Parce que derrière les chiffres et les technologies, il y a toujours des personnes, des choix et des contextes bien différents. Passons à la première histoire qui nous montre le gain de temps que l'agriculteur peut avoir. Donc, Lilian, agriculteur de 50 ans, cultive du maïs sur une parcelle de 15 hectares en Occitanie. En cette période de chaleur, il doit vérifier si ses cultures sont suffisamment irriguées et surveiller l'apparition de maladies. Plutôt que d'inspecter ses champs à pied, ce qui lui prendrait plus de 3 heures, il réserve le drone e-agricole pour l'après-midi. À l'heure prévue, le drone décolle grâce à son téléopérateur et commence son vol en quadrillant la parcelle. En 20 minutes, il collecte des images permettant d'évaluer l'humidité du sol et la santé des plantes. Une fois l'analyse terminée, l'IA détecte que seules les deux dernières rangées présentent un stress hydrique avec une température anormalement élevée par rapport au reste du champ. De plus, elle repère 3 plants sur la 5e rangée, montrant que des signes précoces d'helminthosporiose, une maladie fongique du maïs. En seulement 30 minutes, Lilian obtient un diagnostic complet et peut intervenir sur ses cultures. Il économise ainsi plus de 2h30 de travail tout en préservant ses cultures et en réduisant son impact environnemental. Ensuite, nous avons une deuxième histoire qui porte sur la permaculture. Méline, 18 ans, a choisi de lancer sa propre exploitation de maïs après le bac. Soucieuse de l'environnement, elle s'engage dans une agriculture biologique en bannissant les produits chimiques. Grâce à la location d'un drone, le téléopérateur va le faire voler au-dessus de son terrain et l'IA va détecter précocement les maladies et les localiser avec précision. Par ailleurs, l'intelligence artificielle lui recommande des solutions de permaculture comme l'association du maïs avec des haricots grimpants qui enrichissent le sol en azote et limitent les mauvaises herbes. L'introduction d'insectes bénéfiques pour protéger ces cultures de façon naturelle est aussi proposée comme des coccinelles pour lutter contre les pucerons et des trichogrammes de minuscules guêpes parasitoïdes pour limiter les populations de pyrales du maïs. Pour traiter les plants malades, le logiciel propose des solutions biologiques, notamment le trichoderma, un champignon antagoniste qui freine la propagation de l'helminthosporiose, une maladie fongique causant des taches brunes nécrosant sur les feuilles, ce qui réduit la photosynthèse et donc le rendement. Il lui conseille aussi la décoction de prêles, reconnue pour ses propriétés antifongiques efficaces pour renforcer la résistance naturelle des plants. Donc nous avons écouté le deuxième extrait, l'agriculture de demain, de Benoît Biteau, de la chaîne TEDx La Rochelle, de 2014.
Nous tenons dans nos mains la faculté de la terre avec un grand T, celle qui nous porte tous, sont saccagées par ce modèle agricole qui dévaste les équilibres, qui dévaste les ressources et l'eau en particulier, qui dévaste les biodiversités, qu'elles soient sauvages ou domestiques, et qui dévaste le climat et notre santé.
N'importe quoi, mais qui êtes-vous pour vous exalter de la sorte? Enfin, encore un de ces bobos écolos marginaux, chevelus, barbus, 68 heures attardés, ou un de ces citadins qui ne connaissent vraiment rien à l'agriculture et qui veut nous donner des leçons sur nos exploitations? Oh, on n'a pas le droit de faire rêver les gens, je suis désolée.
Tous les paysans ne sont pas des tous les agriculteurs ne sont pas des paysans. En revanche, tous les paysans sont des agriculteurs. Et j'aime à dire que je me refuse d'être un de ces exploitants qui exploitent la terre, qui exploitent les hommes, qui exploitent les animaux et sur une exploitation agricole. Je suis fier de me revendiquer paysan qui évolue sur une ferme.
Donc c'était Benoît Biteau qui aborde les enjeux de l'agriculture durable, mettant en lumière des pratiques respectueuses de l'environnement et économiquement viables.
Donc, afin d'approfondir et critiquer nos idées, nous avons utilisé la partie analyse fonctionnelle de la méthodologie de l'autéquisation. Cela consiste, à partir de nos petites histoires, à en extraire les fonctions essentielles. Une fois celles-ci identifiées, nous les avons questionnées. Quelles valeurs portent-elles? Quels moyens ou leviers permettent de les mettre en œuvre? Et aussi, quelles tensions ou conflits peuvent-elles créer, ou au contraire, aider à résoudre? C'est une façon de prendre du recul, de ne pas juste inventer un outil performant, mais de réfléchir aussi à ce qu'il change dans la pratique agricole, dans les relations humaines et dans l'impact environnemental. Prenons d'abord l'histoire de Lilian, cet agriculteur qui utilise un drone pour optimiser son temps et ses intrants. Donc les fonctions sont: le drone permet à l'agriculteur d'observer et surveiller la totalité de son terrain rapidement, le drone permet à l'agriculteur de lui fournir des informations sur l'état des cultures et suggestions grâce à l'IA sur les actions nécessaires, comme par exemple où démarrer un arrosage en goutte à goutte. Les tensions associées à ces fonctions vont toucher au consumérisme et aux besoins, c'est-à-dire que le drone va participer à la création de besoins de la part de l'agriculteur. Par exemple, l'agriculteur se reposera sur le drone pour réfléchir aux solutions possibles pour faire face aux maladies. En effet, le drone va créer des besoins que l'on peut donc appeler besoins artificiels. L'agriculteur pourra vouloir les combler grâce au drone et consommer les services de ce dernier. Passons maintenant à l'histoire de Méline, qui cherche à préserver les populations d'insectes. Donc les fonctions associées à cette histoire sont que le drone permet à l'agriculteur de détecter et localiser avec précision les maladies dès leur apparition, réduisant ainsi le recours aux traitements chimiques. Le drone permet à l'agriculteur d'introduire de nouvelles pratiques, comme l'usage de la permaculture et l'introduction d'insectes particuliers grâce à des capteurs spécifiques posés sur le drone. Le drone permet à l'agriculteur de réduire l'utilisation de produits chimiques en privilégiant des solutions biologiques et naturelles pour traiter les maladies et les nuisibles. Les valeurs associées à ces fonctions sont la soutenabilité et les ressources. Le drone va permettre une réduction des pesticides grâce à la proposition de solutions alternatives. Les leviers pour parvenir à ces objectifs sont optimiser l'itératie, c'est-à-dire que le drone va donner la capacité à l'agriculteur de comprendre et utiliser les informations complexes liées au système optimisé. Et finalement, les tensions sont progrès et résilience. Le drone intègre une capacité d'adaptation, d'autocorrection et de résilience face aux crises. Cela constitue un réel soutien pour l'agriculteur, dont les pratiques peuvent être amenées à évoluer de manière perçue comme positive ou négative, selon sa sensibilité au changement. Concrètement, les recommandations fournies par le logiciel s'ajustent aux problématiques actuelles telles que la sécheresse, l'érosion, la dégradation des sols. Par ailleurs, le système peut aussi prendre en compte les orientations choisies par l'agriculteur. Par exemple, s'il souhaite amorcer une transition vers des pratiques plus durables, comme la permaculture. Il y a néanmoins une subtilité avec la résilience. Elle est définie comme une tension et non comme une valeur, parce que bien sûr, elle aide à s'ajuster aux problèmes environnementaux, mais en déployant de nouvelles technologies qui permettent de s'ajuster aux problèmes, cela peut aussi conduire à éviter de prendre les problèmes à la racine. Si on gère mieux le changement climatique grâce à des drones, on peut moins se préoccuper de le prévenir, revenant à une posture technosolutionniste. En somme, le drone ne se limite pas à une simple machine volante. Il est un outil qui cristallise des enjeux humains, économiques et environnementaux.
Ensuite, nous nous sommes évalués avec des outils. Donc, nous avons évalué notre projet en nous appuyant sur un outil spécifique. Nous avons choisi l'outil Paris. Il permet de prendre du recul en identifiant deux aspects fondamentaux. Les paris réussis, c'est-à-dire les impacts positifs attendus, et les paris manqués, autrement dit, quels impacts si le projet ne fonctionne pas ou pas bien. C'est une manière de chercher dès le départ ce qui fonctionne, mais aussi ce qui pourrait poser problème, afin d'améliorer notre proposition dès aujourd'hui. Voici donc ce que donne l'analyse de notre projet agricole à l'aide de cet outil. Nous avons posé une première hypothèse, donc commençons par le pari réussi. Prenons un exemple chiffré en utilisant les données de la veille, dont Marion a parlé tout à l'heure. Un agriculteur utilise en moyenne 3,5 kg de pesticides par hectare chaque année, avec une réduction de 75% des pesticides. Ce sont des données issues de notre travail de veille, comme je l'ai dit tout à l'heure. On passe à 0,875 kg, soit une économie de 2,625 kg par hectare et par an. D'un point de vue économique, si l'on considère un coût moyen de 15 euros par kilo de pesticides, cela représente environ 39,38 euros économisés par hectare et par an. Mais l'enjeu va au-delà de l'aspect financier, il est aussi écologique. En nous basant sur une estimation selon laquelle 1 kg de pesticides peut tuer environ 5 millions d'insectes, notre solution permettrait de préserver environ 13,1 millions d'insectes par hectare chaque année. Par ailleurs, l'irrigation des cultures représente plus de 3 milliards de mètres cubes d'eau pour 1,8 million d'hectares, soit une consommation moyenne de 1700 mètres cubes d'eau par an et par hectare. Or, l'agriculture de précision, appuyée par des drones, peut réduire cette consommation de 45% grâce à une irrigation plus ciblée. Cela équivaut à 765 mètres cubes d'eau économisés par hectare et par an. Avec un prix moyen de 1 euro au mètre cube pour l'eau agricole, cela représente une économie directe de 765 euros par hectare chaque année. Mais comme ce sont des projections et non des certitudes, passons maintenant aux paris manqués et aux points de vigilance. Tous les résultats ne sont pas garantis, notamment si les conditions d'utilisation du drone ou le contexte local limitent son efficacité. Imaginons un scénario moins favorable où la réduction des pesticides ne serait que de 20% au lieu de 75%. Dans ce cas, on économiserait seulement 0,7 kg de pesticides par hectare, soit 10,5 € par hectare. De même, si l'économie d'eau promise grâce à l'irrigation ciblée ne permet de réduire que de 20% la consommation au lieu des 45% avancés, l'économie ne serait que de 340 mètres cubes par hectare, soit 340 euros par an. C'est un gain bien plus modeste, surtout en comparaison du coût d'utilisation annuel du drone, estimé à 1200 euros. Autrement dit, si les économies sont faibles, elles ne suffisent pas à compenser l'investissement, ce qui fragilise le rapport coût-bénéfice. Dans ce cas, le drone pourrait ne plus être perçu comme un levier d'innovation durable, mais comme une charge supplémentaire, difficile à amortir pour un petit exploitant. Par ailleurs, même avec une réduction de 75%, donc 0,9 kg de pesticides par hectare, continue d'être utilisé. Cela représente encore 4,5 millions d'insectes tués par hectare et par an, sans parler des autres effets sur la biodiversité et les équilibres des écosystèmes. Et enfin, il ne faut pas oublier qu'une forte baisse des intrants peut aussi, selon les cultures et les pratiques, entraîner une perte de rendement allant de 0 à 10%, ce qui pose d'autres problèmes financiers.
Nous venons donc de voir comment notre projet a évolué au fur et à mesure du semestre. À ce jour, nous nous rendons compte que les directions que le projet a prises restent marquées par une vision à dominante technosolutionniste. En effet, l'objectif du drone, d'optimiser le temps de travail des agriculteurs et de réduire les coûts, ce qui pourrait mener à des effets rebonds. Les agriculteurs pourraient continuer de garder les mêmes pratiques pour maintenir leurs revenus et ainsi augmenter des phénomènes productivistes. Cela peut paradoxalement affaiblir des alternatives plus locales l'autéquisante, comme le retour à une population agricole plus importante ou le développement de l'agriculture biologique ou de la permaculture. Nous avons donc pensé à quelques points qu'il faudrait mettre en avant et approfondir pour ne pas accentuer la dimension consumérisme du projet. Tout d'abord, le drone pourrait être un réel outil de transition écologique pour les agriculteurs afin de fournir de vraies connaissances et savoirs pour avoir d'autres alternatives aux pesticides. De plus, il pourrait jouer sur la dimension sociale, en aidant les agriculteurs à travailler à plusieurs en communauté. Ainsi, ils travailleraient ensemble, ce qui aide à partager les connaissances. L'IA n'est plus ainsi un outil pour permettre d'avoir des solutions rapidement. Elle peut apporter des connaissances à l'agriculteur et des conseils pour qu'il puisse finalement s'en passer, un peu comme un professeur. Même si le drone peut amener des améliorations écologiques, il reste quand même une technique ajoutée. Dans sa construction, il va utiliser des matériaux qui ne sont pas neutres, ni écologiquement, ni socialement. Réfléchir à des produits simples et durables est un enjeu en soi. Un scénario à explorer serait aussi que le drone puisse appartenir à des coopératives paysannes et non à une entreprise locatrice. Ainsi, ce serait un outil au service de la convivialité technique, de mutualisation des outils et savoirs. Le fait de mettre en lumière des points sensibles, des risques ou des effets secondaires négatifs ne remet pas en cause la pertinence de notre projet. Et même si c'était le cas, cela ne serait pas grave, tous les projets ne peuvent pas et ne doivent pas être menés. Au contraire, c'est une démarche responsable. En effet, en identifiant ces enjeux dès maintenant, nous nous donnons les moyens de les anticiper, de les comprendre et surtout d'imaginer d'autres trajectoires, y compris celle d'arrêter donc. C'est cette lucidité qui permet à une innovation de s'ancrer durablement dans la réalité du terrain, en tenant compte à la fois des besoins des agriculteurs, des équilibres écologiques et des transitions à venir. Car un projet soutenable n'est pas un projet parfait, c'est un projet qui évolue en conscience.
C'était la présentation du projet e-agricole. Vous avez terminé, n'est-ce pas?
Merci à tous de nous avoir écoutés. Et vous pourrez retrouver notre émission sur Apéritube. Et si notre projet vous intéressait, on ne peut que vous inviter à nous suivre sur Mastodon, où vous pourrez consulter l'intégralité du site du projet.
Et puis également votre projet accessible depuis l'onum.fr, comme tous les autres projets de l'UV. Et ben, merci beaucoup Solène et Marion pour cette présentation. On va passer maintenant à la phase de questions. Alors en fait, vous avez bien travaillé parce que vous avez anticipé une bonne partie des questions. Néanmoins, je vous ai gardé que les plus dures, hein, parce que les plus faciles, vous avez déjà répondu. Je ne sais pas si vous avez exploré cette voie. Hugo demande si vous avez exploré la question des certifications, les questions un peu légales concernant le pilote, le système lui-même. Alors je sais qu'on a un outil qui s'appelle Sedlex. Je ne sais pas si vous l'avez travaillé en cours ou si vous avez exploré ces voies un peu par d'autres moyens.
Alors déjà, non, nous n'avons pas utilisé cet outil-là. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop le temps. Mais pour répondre à la question, oui, on s'y est penché. Bon, c'était pas évidemment le centre de notre recherche, mais on s'y est intéressé notamment avec notre suiveur. Et en fait, il se trouve qu'un drone de cette taille-là, enfin de cette dans cette logique d'utilisation, doit être considéré quasiment, même je suis quasiment certaine, comme un aéronef, c'est-à-dire qu'il doit être signalé à l'aéroport concerné par le terrain. Et il doit subir tout un tas de normes, être visible, on doit prévenir quand il décolle, etc. Et le téléopérateur doit passer une certification. C'est pour ça que ce n'est pas l'agriculteur lui-même qui le fait, ça serait beaucoup trop lourd. Et je sais que notre suiveur, lui, il avait la première étape, il me semble. Donc voilà.
Ok, donc d'où l'intérêt d'avoir effectivement un opérateur professionnel. Je ne sais pas si Lou qui est en studio, tu veux poser ta question à voix haute?
Je peux. On sait que l'IA pose des problèmes, surtout en ce moment, hein, c'est la grande question actuellement. Et donc, est-ce qu'on peut craindre une perte d'expertise et de connaissances des agriculteurs à cause de l'utilisation de l'IA?
Alors du coup, l'idée justement auquel on a réfléchi à cette problématique parce que on a peur de ce qui pourrait se passer, et on s'est dit que l'IA pourrait être comme j'ai dit, un peu comme un professeur, et finalement un moyen de répartir les connaissances. Mais en fait, à la fin, l'agriculteur, une fois qu'il a la connaissance, il n'en a plus besoin. Et donc, l'objectif final, c'est de ne plus en avoir besoin et de pouvoir s'en passer.
C'est pour ça que vous avez parlé plusieurs fois, je crois aussi, comme le premier groupe, peut-être, je ne sais pas si vous l'avez dit aujourd'hui, mais de principe de transition dans l'agriculture. Donc, on peut avoir cet espoir que l'IA nous aide de ce côté-là, mais les questions associées, hein, je crois qu'on a également tout à l'heure évoqué le concept de prolétarisation, c'est-à-dire le fait de s'en remettre à une machine pour effectivement mener des opérations et perdre le savoir-faire. Vous aviez eu deux questions de Laura et Anouk, mais vous en avez déjà un petit peu parlé, donc je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot sur le fait que bien là, le projet est monté par donc une entreprise avec une logique de location. Alors, tu nous as bien dit, hein, Solène, en quoi c'était important qu'il y ait un savoir-faire spécifique et que tout un chacun ne pouvait pas opérer des drones dans un tel contexte. Néanmoins, est-ce que voilà, vous avez imaginé des scénarios dans lesquels le drone pourrait appartenir aux agriculteurs, être mutualisé, ou est-ce que c'est déjà un petit peu peut-être le projet de Sébastien Rossi, je ne sais pas.
Nous, on avait parlé d'une coopérative, donc un principe de mutualisation entre les agriculteurs. Au début, on voulait garder ce principe de coopérative en plus du principe locatif. Mais on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué parce que ça s'annulait un peu. Donc oui, effectivement, mais il faudrait que M. Rossi envisage une vente de son drone. Pour que ça appartienne à la coopérative. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'ils deviendraient indépendants, enfin les agriculteurs deviendraient indépendants de l'entreprise, mais il faudrait qu'au sein de la coopérative, du coup, certaines personnes passent les brevets et toutes les spécifications qu'on vient de dire tout à l'heure. Mais okay. C'est envisageable, c'est pas impossible, je pense.
Ouais, ouais, tout à fait. Donc, okay. Donc c'est d'autres modèles, hein. Ça montre effectivement que par rapport à ces enjeux de partage du matériel et du savoir-faire, il y a probablement plusieurs modèles à faire émerger, hein. On va dire le modèle un peu classique de voilà, des gros acteurs vendent à plein d'autres acteurs peut être questionné. Là, du coup, on a une petite entreprise, on a des perspectives de coopérative, vrai, des modèles un peu alternatifs. Bah, je vous remercie vraiment pour votre présentation. Vous aviez probablement, peut-être avec le groupe d'avant, mais vous peut-être plus encore, un des projets peut-être les plus difficiles, parce que vous étiez le plus à la crête entre finalement les questions de l'autéquisation et les projets technosolutionnistes. Je trouve que c'est intéressant que ce genre de projet soit mené en IS3, parce que ça permet aussi justement de voir un petit peu comment ça fonctionne et ça fonctionne pas. Je sais que vous avez pas eu que des voilà, ça n'a pas toujours été très très facile, mais on arrive du coup à un résultat, à mon avis, assez intéressant d'un point de vue de la critique générale qu'on peut mener. Et puis voilà, on vous avait mis les bénéfices, les risques, on l'a vu à plusieurs reprises. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un dernier mot, si on se quitte là-dessus.
Non, c'est bon pour nous. Merci encore. Et merci beaucoup.
Merci à toutes les deux. Merci encore à Lou et Hugo qui sont encore en studio avec nous aussi. Donc merci Solène et Marion. Donc on a eu deux projets autour de l'agriculture. Donc là c'était iAgricole et juste avant Agribot. Et on va continuer donc avec le projet Low Tech Push. Je laisse un petit peu de suspense. Puis Stop Méga Projet. Vous pouvez retrouver nos émissions de radio sur Peertube à l'adresse aperi.tube et également le descriptif des projets. Tous les travaux qui ont été réalisés à partir, et ainsi que tous les cours et plein d'autres trucs encore, à partir de l'onum.fr. Donc voilà, pour nous quitter, Marion a choisi, sans aucune influence de ma part, Plus rien des Cowboys fringants. C'est parti.
Ne reste que quelques minutes à ma vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, et qu'il tombait encore de la neige en hiver. Dans ces temps on vivait au rythme des saisons, la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Ne reste que quelques minutes à ma vie, plutôt plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux, ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la panique ont déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim. On retombe les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.